Le mont Bel-Air à Trébry. C'est un lieu hors du temps où randonneurs à pied ou vététistes pourront faire une halte bien méritée car la pente est un peu raide. En effet, nous sommes ici au point culminant des Côtes d'Armor à 339 mètres d'altitude. Le mont Bel-Air a, depuis la nuit des temps, été un lieu de culte et de recherche de la protection divine. Les Gaulois y vénéraient le dieu Bélénos. Ici trône désormais la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel, ancien oratoire de forme octogonale, construite entre 1870 et 1895. À proximité, le Gouessant prend sa source. Depuis certains endroits, légèrement en contrebas de ce promontoire, on peut voir au nord jusqu'à la baie de Saint-Brieuc et au sud jusqu'à la forêt de l'Oudéac et les collines du Méné. Alors, si ce n'est déjà fait, venez prendre un peu de hauteur au mont Bel-Air à Trébry. Photo d'illustration de Thierry Jandot, représentant la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel. Géraldine Magnan, photographe. Le sport dans toute son humanité. Ces images subliment le dépassement de soi. Photographe sportive à Saint-Alban, Géraldine Magnan arpente les plus grands trails des Côtes d'Armor à l'affût des émotions que seul le sport sait engendrer. Ouvrez les guillemets. J'ai toujours aimé figer des instants de ma vie pour en garder des souvenirs. Fermez les guillemets. Géraldine Magnan s'en souvient comme si c'était hier. Elle a pris goût à la photo dès l'adolescence. Ouvrez les guillemets. Quand on partait en vacances avec les copains, j'avais toujours un appareil photo autour du cou. La passion a grandi tout naturellement. Fermez les guillemets. En 2015, Géraldine, également très sportive, débute la pratique du trail en compétition et y entrevoit un terrain de jeu idéal pour exercer son œil de photographe. Ouvrez les guillemets. C'est un milieu où les émotions sont très présentes, où l'on est au plus près de la nature. J'ai vite ressenti le besoin de photographier ce domaine. En 2018, lors du Ménès Trail, j'ai troqué mes baskets contre mon appareil photo pour participer à un stage avec Alexis Berg, l'un des plus grands photographes dans le monde de l'ultra-trail. Ça a été une révélation. Fermez les guillemets. Depuis, c'est derrière un objectif que Géraldine Magnan dévale les sentiers des plus grandes épreuves costarmoricaines. Ouvrez les guillemets. C'est tout aussi sportif et intense, sourit-elle, car je dois suivre le rythme de la course pour photographier au bon moment les plus beaux spots du circuit. Géraldine Magnan travaille beaucoup par série et cherche avant tout à raconter des histoires. Ouvrez les guillemets. J'aime capturer des instants, mettre en lumière tout ce qui englobe la course. J'essaye de me faufiler, d'être à l'affût de tout pour saisir les petits détails, les émotions. Courage et dépassement de soi, ce sont ces valeurs qui me font vibrer derrière l'objectif. Fermez les guillemets. Bel exemple de cette philosophie, Géraldine Magnan a photographié ces derniers mois, pour le département, plusieurs courses de l'événement Yes You Trail, qui permet à des personnes éloignées de la pratique sportive ou en situation de handicap de participer à des courses emblématiques. Ouvrez les guillemets. Cette expérience a été incroyable, s'enthousiasme la jeune femme. Ce qui m'a marqué, c'est la détermination de ces personnes, leur sourire et surtout leur fierté au moment de passer la ligne d'arrivée. Certains n'avaient jamais couru dans le sable ou marché dans l'eau. ils nous ont tous donné une belle leçon de courage. » Fermez les guillemets. Pleine d'humanité, cette série de photos, à découvrir sur le site côtedarmor.fr, n'est pas la seule à témoigner de la générosité de Géraldine Magnan. La jeune femme couvre régulièrement d'autres défis sportifs et solidaires, à l'image de ceux initiés par son coach sportif David Lemercier, qui embarque des enfants en situation de handicap dans des triathlons, swimrun ou autres trails extrêmes. À la clé, les clichés sont toujours aussi poignants. À découvrir. L'école du dehors. Apprendre et grandir avec la nature. Enseigner le programme scolaire en pleine nature. C'est le principe de l'école du dehors. En Côte d'Armor, l'association Eau et Rivières de Bretagne accompagne chaque année 3 à 4 classes qui souhaitent se lancer dans l'aventure. La séance commence les yeux fermés. Assis sur des troncs couchés dans le sous-bois, une vingtaine d'élèves se concentrent sur les sons de la nature, le chant des oiseaux, le bruissement du vent, le bêlement d'une biquette au loin. Ce temps d'écoute offre une introduction sereine à la leçon du jour consacrée aux adjectifs contraires. Comme chaque jeudi, les grandes sections CP de l'école Gilles Servat de Pabu vont travailler ici tout l'après-midi, au grand air et les mains dans l'humus. Mieux apprendre par le concret. L'école du dehors n'a rien d'une lubie. À l'heure où toutes les études pointent une réelle déconnexion des jeunes à la nature, cette pratique émergente ne manque pas d'intérêt. Ouvrez les guillemets. Faire l'école dehors, cela mobilise toutes les capacités de l'enfant, témoigne Dominique Cottereau, coordinatrice du réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Note, le REEB, dont fait partie l'association Eau et Rivières, encourage le développement de l'école du dehors, notamment en proposant des formations à destination des enseignants et des animateurs nature. Fin de note. L'élève entre en contact direct avec le monde réel. Il va observer, entendre, manipuler. Son cerveau et tous ses sens sont mobilisés. Cela facilite la compréhension et la mémorisation des notions. Fermez les guillemets. À Pabu, l'exercice du jour offre un exemple probant. Après avoir présenté quelques mots contraires à ses élèves, grand, petit, léger, lourd, sec, mouillé, etc., Isabelle Micha, enseignante et directrice, les invite à un temps d'exploration pour collecter des objets illustrant les notions apprises. La petite troupe s'affaire, l'un roulant une pierre, l'autre farfouillant le ruisseau, d'autres encore ramassant plumes et feuilles. Ouvrez les guillemets. Grâce à ces exercices, la leçon devient très concrète, constate l'enseignante. Je vois tout de suite s'ils ont compris. De plus, ces moments de recherche favorisent la coopération, l'imagination, la confiance en soi. Fermez les guillemets. L'école du dehors, c'est la bonne révolution de l'éducation à l'environnement, assène Vincent Lefebvre, directeur de l'action pédagogique à Eau et Rivières de Bretagne. Reconnecter les gamins à la nature, en immersion sur la durée, c'est la meilleure façon de les rendre sensibles aux enjeux environnementaux. C'est pour cela qu'on a lancé une expérimentation il y a 3 ans pour accompagner les classes qui souhaitent commencer. Aide pour trouver un lieu, animation des premières séances, mise à disposition de ressources pédagogiques, le soutien est précieux pour des enseignants qui doivent réinventer leur façon d'instruire. ouvrez les guillemets. Au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre, reconnaît Céline Poens, également enseignante à PABU. Il faut repenser ses pratiques, apprendre à laisser plus de liberté aux élèves. Heureusement, les animateurs du CRIR sont très présents. Note. CRIR, Centre Régional d'Éducation à la Rivière, Centre d'Éducation à l'Environnement de l'association Eau et Rivière, labellisé Maison Nature, il assure l'accompagnement des classes dans le cadre de l'école du dehors, mais aussi de classes rivières. Fin de note. Et la récompense, c'est que l'on constate vite les effets sur le bien-être des enfants et sur le climat de la classe. Fermez les guillemets. Si l'impact sur les résultats scolaires est difficilement mesurable, les bénéfices sur la santé sont quant à eux reconnus. Parce que dehors on bouge plus, parce que la nature a des vertus apaisantes, l'école du dehors peut contribuer à réduire le surpoids, à contenir l'hyperactivité ou à lutter contre le stress. Des bienfaits qui dépassent le seul cadre de l'école. À PABU, dans cet établissement bilingue, l'école du dehors est assurée en breton, facilitant aussi l'apprentissage de la langue. À découvrir, Anne-Gaëlle Berthaud et ses chevaux. Les spectacles équestres, c'est son dada. Depuis son premier spectacle avec Praline, une jument promise à l'abattoir qu'elle a su remettre d'aplomb à force de patience et de bienveillance, Anne-Gaëlle Berthaud a tracé sa voie, celle d'une artiste équestre de renom, acclamée en Europe, à la tête de sa propre écurie à Guerlédan et qui met le bien-être animal au-dessus de tout. De tous les animaux domestiques, le cheval est souvent considéré comme le plus gracieux. Une noble bête au port altier, à l'histoire intimement liée à celle de l'homme, avant que la mécanisation ne vienne perturber cette longue relation. S'ils sont aujourd'hui nettement moins utilisés qu'il y a encore un siècle pour le transport et le travail au champ, les fidèles équidés gardent encore une belle cote de popularité. Ce n'est pas Anne-Gaëlle Berthaud qui va dire le contraire. La jeune femme de 25 ans, originaire de Saint-Guin, dans la commune nouvelle de Guerlédan, est artiste équestre de profession. Elle en est même l'une des plus réputées, grâce à un spectacle qu'elle présente avec 4 chevaux, un poney et son fidèle chien Lucky. Unique en son genre, ce horse show l'est par l'approche sans contrainte, sans enraînement, de la pétillante dresseuse qui s'en explique. Ouvrez les guillemets. C'est moi qui m'adapte à mes chevaux et non l'inverse, en modifiant au besoin l'ordre des figures et le programme de la représentation. Je donne un cadre dans lequel évoluer, mais les animaux ont aussi une grande liberté de mouvement. Leur bien-être est essentiel. Il faut qu'ils soient heureux et s'amusent. C'est, je crois, l'une des clés de ma réussite. Fermez les guillemets. Ces représentations sont acclamées partout en France et dans des pays voisins comme l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark. À la voir évoluer si naturellement avec sa petite ménagerie, comme si elle parlait le même langage, difficile de s'imaginer qu'Anne-Gaëlle Berthaud n'a qu'une expérience de 10 ans à peine dans ce milieu. Ouvrez les guillemets. Contrairement à certaines petites filles qui pratiquent très tôt l'équitation, j'ai longtemps préféré la gym et le basket. Mais un jour, à 15 ans, ma meilleure amie Anne-Laure m'a proposé une promenade équestre et ça a été le coup de foudre. Fermez les guillemets. Déterminée, fonceuse de caractère et dotée d'un talent inné, l'adolescente parvient à convaincre ses parents, agriculteurs, d'acquérir un cheval. Ce sera Praline, une ponette boiteuse, si mal en point que l'euthanasie n'est empêchée que grâce aux bons soins de sa nouvelle protectrice qui se souvient avec émotion. Ouvrez les guillemets. Patiemment, à force de travail, je l'ai stimulée et nous avons commencé à faire ensemble quelques petits tours. Fermez les guillemets. En 2013, Anne-Gaëlle s'inscrit à son premier concours équestre, le pied à l'étrier, organisé à l'hippodrome d'Iffignac. Ouvrez les guillemets. J'étais la plus jeune, mais je l'ai gagné. Idem l'année suivante, cette fois avec Albacane, une autre jument remise en forme. Éric Gauthier, artiste équestre de Lamballe, m'a alors invité à me produire au Jeudi du Haras. Ma carrière était lancée. Fermez les guillemets. Conviée en 2017 au prestigieux Salon international de Hanovre, Anne-Gaëlle Berthaud entre alors dans une autre dimension et devient une figure en vue du monde du cheval, où son approche bienveillante des animaux est saluée. Avec environ 200 spectacles à son actif et quelques passages télé, notamment pour l'émission de TF1 Animal Academy, la costarmauricaine jouit d'une solide réputation. Grâce à ce succès, elle a aussi pu démarrer avec son compagnon Mehdi Fortin, lui-même cavalier voltigeur de formation, une activité parallèle de pension et de commerce de chevaux ibériques dans l'écurie aménagée dans la ferme familiale de Saint-Guin. Ouvrez les guillemets. Au total, nous disposons de 23 boxes, d'un manège, d'une aire d'évolution et de près de 6 hectares de prés, précise-t-elle avec fierté. Des travaux qui ont pu être entrepris pendant la longue pause liée à la pandémie de Covid. Heureusement, les spectacles reprennent petit à petit depuis quelques mois. Mes chevaux sont contents, ils n'attendaient que ça, et moi aussi. Fermez les guillemets. À découvrir. L'aventure des télécoms. Le radôme a 60 ans. Les Côtes d'Armor, ce sont aussi un patrimoine industriel parfois étonnant, comme le radôme de Plumeur-Baudou, qui témoigne de la formidable aventure des télécoms dans le Trégor. Avec sa boule blanche qui domine la côte de granit rose, à Plumeur-Baudou, le radôme est l'un des monuments les plus populaires des Côtes d'Armor et témoigne de l'implantation réussie durant les 30 glorieuses d'industries de pointe en Bretagne. En effet, dès la 4e République, les dirigeants français ont tenté d'impulser des mesures de décentralisation, particulièrement dans le domaine économique. En 1955, la commission Sudreau travaille ainsi à l'installation en région d'établissements publics, une tâche qui ne suscite guère l'enthousiasme des hauts fonctionnaires, à une exception, celle du directeur du Centre national d'études des télécoms, CNET, Pierre Marzin. Lannionnais de naissance, il est en contact avec des élus bretons et trégorois qui s'inquiète du déclin économique de la région. À l'époque, Lannion ne compte que 7 000 habitants, Guingamp à peine 10 000. Un très efficace lobbying se met donc en place pour faire du Trégor un pôle international de télécommunications. Il est vrai que Pierre Marzin est, dans l'après-guerre, une sommité dans son domaine. Ce polytechnicien, né en 1905, est à l'origine de plusieurs innovations dans le monde des PTT, postes, télégraphes et télécommunications. Dans les années 1930, il a mis au point la première membrane pour les combinés téléphoniques, surnommée la pastille Marzin. Avant la guerre, il invente également un système doublant la capacité de transmission des fils téléphoniques, rebaptisée dans le milieu la Marzinette. Bien plus tard, en 1970, il est à l'origine du Platon, le prototype lannionnais d'autocommutateur temporal à organisation numérique, à savoir le premier commutateur téléphonique électronique. Ce brillant scientifique n'a pas oublié ses origines bretonnes et, à force d'abnégation, il obtient du pouvoir gaulliste l'implantation d'une antenne du CNET à Lannion. Le 19 mai 1960, le ministre des PTT vient poser la première pierre des bâtiments. En septembre suivant, c'est le général de Gaulle en personne qui visite le chantier. Lannion se transforme avec l'arrivée de nombreux ouvriers et ingénieurs. En 1961, les premiers bâtiments sont achevés, dont le plus spectaculaire est situé à Pleumeur-Baudou. Il s'agit du radôme, une énorme boule de 50 mètres de haut, posée au milieu de la campagne trégorroise. Elle abrite une antenne radar pour capter les communications par satellite. En effet, la course à l'espace vient de débuter entre les USA et l'URSS. Les Soviétiques sont parvenus à lancer leur premier satellite, Spoutnik, en 1957. En réponse, les Américains développent un programme spatial ambitieux, visant particulièrement à renforcer les communications avec leurs alliés européens. Les Français répondent favorablement et acquièrent une antenne de transmission, celle qui est installée dans le radôme. Le 10 juillet 1962, le satellite TELSAR est lancé depuis Cap Canaveral. Le lendemain, les ingénieurs français parviennent à capter son signal et des images en provenance de la station d'Andover dans le Maine, qui possède un radôme jumeau. Il s'agit de la première liaison télévisée intercontinentale réussie. Elle apparaît aussitôt comme une revanche du camp occidental après Spoutnik. Outre le CNET, Pierre Marzin use de son influence pour le développement industriel du Trégor. En 1968, Alcatel s'implante dans la région. Guingamp accueille l'AOIP, une usine de téléphone. Durant ces années, la population de Lannion triple et la ville fusionne avec plusieurs communes alentour. L'aérodrome est agrandi et réaménagé pour accueillir des liaisons régulières avec Paris. Elles sont destinées aux cadres du CNET et à leurs familles. En 1971, Pierre Marzin est élu maire de Lannion, puis sénateur. Le développement du Trégor est toutefois interrompu par des crises qui touchent régulièrement un monde des télécoms où les évolutions technologiques sont très rapides. Dans les années 1980, l'usine AOIP ferme ainsi à Guingamp, plongeant la ville dans le marasme. Régulièrement, les centres de recherche à Lannion ont enregistré des coupes claires dans leurs effectifs. De plus, dans les années 1980 et 1990, les transmissions intercontinentales par satellite sont détrônées par celles par câble sous-marin et par la fibre optique. L'antenne du radôme est retirée du service en 1985, mais il est décidé de la conserver en témoignage. Le site de Pleumeur-Baudou est classé au titre des monuments historiques en 2000 et devient quelques années plus tard la cité des télécoms. Le radôme devient alors le musée des télécommunications. À partir des années 1990, on commence à parler de Trégor Valley avec l'implantation des sites universitaires. Un clin d'œil à la Silicon Valley en Californie. Lannion connaît d'ailleurs un nouveau boom économique vers 1999-2001, avec l'implantation de nombreuses PME et PMI spécialisées dans l'optique et la fibre avant que l'activité ne connaisse des difficultés. Finalement, l'aventure des télécoms dans le Trégor est l'histoire d'une décentralisation industrielle qui a réussi et profondément transformé le pays de Lannion, considéré encore aujourd'hui comme un pôle d'excellence en recherche scientifique. Le Radôme, cité des télécoms, rendez-vous le 17 septembre. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine et dans le cadre du 60e anniversaire du Radôme, la Cité des télécoms de Pleumeur-Baudou propose, le samedi 17 septembre, le spectacle « Une autre petite histoire du Radôme », un récit avec mise en lumière et images projetées sur la surface du Radôme. Renseignements et programmes sur cité-télécom.com.